Bonjour, chers amis auditeurs de Radio Grand Ciel. Nous sommes dans notre émission Histoire et iconographie et j'ai le très grand plaisir de recevoir aujourd'hui dans nos studios l'abbé Marcel Ferdinand. Bonjour monsieur l'abbé, vous êtes curé dans le secteur de Rouet, tout en étant à la retraite je crois, mais on vous connaît très bien dans le diocèse de Chartres. Et si je vous ai convié aujourd'hui à notre émission, c'est que nous allons évoquer le souvenir d'un abbé que vous avez eu, je crois, le bonheur de connaître, l'abbé Franz Stock, qui a dirigé près de Chartres, au Coudray, près de Morancé, le séminaire des Barbelés, sans doute le plus grand ou l'un des plus grands séminaires d'après-guerre ou de tous les temps même, car plus de 900 séminaristes et étudiants en théologie sont passés par ce séminaire. Nous allons donc parler de l'abbé Franz Stock et de ce séminaire des Barbelés. Et c'est vous, vos souvenirs, cher monsieur l'abbé Marcel Ferdinand, qui vont nous faire revivre un peu cette époque-là, qui était sans doute très dure pour tous ceux qui ont dû passer par ces épreuves. Alors, comment est-ce que vous avez connu l'abbé Stock ?
Bien, tout d'abord, madame, je voudrais vous dire que c'est un grand honneur, mais surtout une grande joie pour moi de parler de l'abbé Stock, un prêtre qui m'a beaucoup, beaucoup marqué alors que j'étais à un an et demi du sacerdoce. Par la suite, d'autres personnes m'ont marqué, mais lui, vraiment, c'était le premier prêtre qui m'a marqué. Alors, comment je l'ai connu ? Eh bien, j'ai été mobilisé au mois d'août 1945. Pourquoi ? Parce que j'appartenais à la classe 22 et que ceux qui n'avaient pas été travaillés au STO en Allemagne, eh bien, ont été mobilisés. Et je suis arrivé au camp de Morancé, le Coudray, à la fin d'août 1945, soit 15 jours environ après l'arrivée de cette tentative de regrouper les séminaristes allemands. On les avait regroupés d'abord à Orléans, mais à Orléans, ils étaient à l'étroit, et puis l'ambiance n'était pas très bonne. Et d'Orléans, ils sont arrivés à Chartres le 17 août 1945, quand moi-même, donc je suis arrivé au camp de Morancé, le séminaire ne faisait que de démarrer depuis une quinzaine de jours seulement. Nous étions d'ailleurs un petit détachement qui venions du COI 105 de Blois. COI, ça veut dire Centre d'organisation d'infanterie, dont trois séminaristes, Maurice Martina, qui fut curé de la cathédrale de Bourges par la suite, et Paul Judic, qui est mort il y a 10 ans. Et nous avons tous les trois été affectés au séminaire, ou plus exactement au camp de Morancé, car en effet, Maurice Martina et Paul Judic, eux, se sont trouvés plutôt à l'intendance. Et quant à moi, le commandant m'avait demandé dans un premier temps d'être dans le bloc 11, c'est-à-dire le bloc 11, où on avait regroupé des Hitlerjugend, c'est-à-dire de ces jeunes hitlériens qui souvent n'adhéraient pas franchement au régime, mais qui avaient été pris sous les murs de Cologne et autres, parce qu'à la fin, les Allemands manquant de soldats avaient aussi, j'allais dire d'une certaine façon, mobilisé ces enfants. Et donc, me voici arrivé à ce camp de Morancé fin août 1945, mais dans un premier temps, j'ai donc été affecté pour un mois à peu près au bloc 11 dont je viens de parler. Quand les Hitlerjugend ont été rapatriés, ce qui était normal, c'était des jeunes de 14-15 ans en Allemagne, le commandant Gouru, qui commandait le camp à l'époque, m'a fait venir en me disant « Vous êtes séminariste soldat, si vous voulez bien, je vais vous confier une mission, ce serait d'être le bras droit du père Jonner. » Le père Jonner, c'était un prêtre alsacien qui avait le grade de lieutenant et qui assurait la liaison entre ce séminaire d'un type tout à fait particulier et les autorités du camp. Alors mon rôle, je puis en dire un mot tout de suite, c'était un rôle assez varié, puisque Il consistait d'abord à prendre des contacts avec Monsieur Asquet, l'évêque de Chartres, et son secrétaire, le père André, autrement dit, à assurer un petit peu le lien entre l'autorité religieuse du diocèse et ce séminaire d'un type tout à fait particulier. Et puis ensuite, souvent, j'accompagnais les séminaristes chez Madame de Malherbe au Thiolin, où elle avait une propriété qui permettait d'accueillir des gens pour venir se reposer, et ce fut le cas non seulement des séminaristes, mais de l'abbé Stock lui-même, car assez souvent, j'ai accompagné l'abbé Stock au Thiolin. Également, je me préoccupais du chauffage, ces grands hangars que vous connaissez peut-être, je dirais même sans doute, ces grands hangars en béton étaient très, très, très froids, et eh bien, le commandant m'avait dit, essayez de trouver du bois. Il y avait un parc face au camp. Je ne sais pas exactement quels étaient les liens qui unissaient le camp avec ce parc. Toujours est-il que nous allions dans ce parc faire la corvée de bois. Et puis, je me suis occupé aussi un petit peu du ravitaillement. Il y avait tout près du séminaire, le père Chenot, qui était curé du Coudray, et qui, lui, allait un peu discrètement trouver des cultivateurs pour avoir du blé, et tout cela se faisait d'une façon très, très discrète. Nous emmenions ce blé au moulin Viron, qui n'est pas très loin de là, et nous ramenions donc de la farine pour que les séminaristes puissent quand même avoir un minimum, alors que le camp, à cette époque-là du moins, était encore fort dépourvu.
Parce que le camp regroupait à un certain moment jusqu'à 30 000 prisonniers, donc effectivement la famine devait sévir. Et...
Oui, parce qu'il y avait donc, j'ai dit le bloc 11, le bloc 11, c'était le dernier, mais il y en avait 10 avant. Or la plupart des blocs avaient environ 3 000
prisonniers, 3 000 prisonniers dans ce camp. Oui. Qui se visitent toujours, car il y a une association, les Amis de Franz Stock, qui perpétue la mémoire de Franz Stock et organise régulièrement, tous les week-ends, presque des visites au séminaire des Barbelés, qui a pu être racheté et va être aménagé sans doute comme à l'époque de l'abbé Stock. Donc on va recréer cette chapelle que vous avez connue.
Oui, en réalité, il y avait une chapelle dans le camp, une chapelle en... C'était un baraquement, et cette chapelle servait assez peu. Par contre, au séminaire même, il y avait donc plusieurs hangars en béton qui avaient été aménagés avec les moyens du bord, et un de ces hangars servait en effet de chapelle. Et il y a encore, vous le savez bien, les traces de la fresque que l'abbé Stock lui-même avait peint derrière l'autel.
On va après une petite pause musicale parler de cette fresque.
D'accord.
Cher monsieur l'abbé Ferdinand, nous parlions à l'instant même où vous nous parliez de ce séminaire des Barbelés où l'abbé Franz Stock a dirigé le plus grand séminaire sans doute de tous les temps, un séminaire d'un genre tout à fait spécial qui regroupait des séminaristes et des étudiants en théologie, prisonniers de guerre après 1945, et vous évoquiez dans le hangar qui regroupait ces séminaristes la fresque que l'abbé Stock avait peinte. Et j'ai le plaisir d'annoncer à nos chers auditeurs que cette fresque vient d'être restaurée, elle a été remise en l'état, et l'inauguration officielle et solennelle aura lieu le 19 septembre 2009 à 11h30 au séminaire des Barbelés au Coudray. Et je vous donne un numéro de téléphone afin que vous puissiez vous informer dès maintenant. Au numéro suivant, vous pourrez donc obtenir de plus amples renseignements au 06 15 17 52 14. L'association Les Amis de Franz Stock vous se fera un plaisir de vous inviter à cette inauguration de cette fresque que l'abbé Stock a peinte et qui montre donc une grande croix. Mmh. Les deux intercesseurs que sont la Vierge Marie et Saint Jean l'Évangéliste et Saint Michel Archange et l'apôtre qui a christianisé la Germanie. Donc,
oui, je voudrais, madame, excusez-moi, vous dire combien je suis satisfait, comme beaucoup, de savoir la restauration de cette fresque. Parce que quand le séminaire a fermé, pratiquement, comme j'étais moi-même, même démobilisé, je gardais des liens avec le séminaire, puisque j'étais moi-même au séminaire de Chartres, puis, bon, très bien. Et quand le séminaire a fermé, cette fresque était absolument intacte. Et par la suite, des Vauriens sont entrés dans ce hangar et ont abîmé. Et moi, ça me faisait toujours le mal au cœur quand je voyais cette fresque qui avait été peinte par l'abbé Stock lui-même, quand je la voyais si abîmée. Et je me réjouis beaucoup de savoir qu'elle va être restaurée.
Donc, on va parler de l'abbé Stock que vous avez connu. Quel était votre premier contact? Est-ce que la langue était un handicap?
Non, parce qu'il parlait impeccablement le français.
Comment cela s'est-il passé? Est-ce que vous l'avez accueilli au camp ou est-ce qu'il était déjà installé, il était déjà là pour prendre connaissance de cette nouvelle tâche qu'il attendait après cette rude épreuve qu'il venait de traverser et parce qu'il a accompagné au peloton d'exécutants, selon ses propres dires, un nombre de quatre chiffres. Lui-même, il a dit une fois, près de 4000 prisonniers qui ont été fusillés. Lui-même pleurait parfois pendant les messes. Sans doute, les souvenirs étaient tellement forts que cela lui a brisé le cœur, puisqu'il est mort à l'âge de 44 ans, très peu de temps après la dissolution du séminaire. Donc, vous l'avez connu. Quelle était votre première impression quand vous avez rencontré l'abbé Stock?
Eh bien, cet homme, de toute sa personne, j'allais dire, émanait une certaine sainteté. Difficile, bien sûr, à définir la sainteté, ça ne se pèse pas aux pèse-lettres, c'est trop clair. Mais d'abord, ce qui m'a frappé, chez tout homme, bien sûr, c'était son regard. Il avait un regard, un peu perdu. Il portait dans son regard le poids de toutes les souffrances qu'il avait accompagnées jusqu'au poteau d'exécution et en prison, bien entendu. Et quand je lui en ai parlé la première fois, il m'avait dit « J'avoue qu'au départ, j'étais contre ces prisonniers. Pourquoi ?» Tout simplement, me disait-il, parce que je les prenais pour des terroristes qui tiraient dans le dos des soldats allemands. Or, surtout les gens de la Wehrmacht, c'était des braves gens qu'on avait, comme dans tous les pays du monde, pris parmi les cultivateurs, parmi les petites gens, bref. Et il me disait ça, c'était insupportable pour moi. Et puis petit à petit, m'a-t-il dit, j'ai changé mon regard sur eux, parce que j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns qui m'ont marqué, c'est lui qui parle là, et notamment il me parlait du commandant d'Estiendorf et de Gabriel Péri. Destiendorf, un chrétien remarquable, un homme d'une très grande valeur, et puis Gabriel Péri, un communiste, comme vous le savez sans doute, mais lui aussi un pur. Et il avait été très très marqué par Destiendorf et par Gabriel Péri, et il m'a dit, là j'ai changé mon regard, j'ai compris que c'était des patriotes qui aimaient leur pays, comme moi j'aime mon pays, car il aimait beaucoup l'Allemagne. Tout en ayant certainement des sympathies pour la France, mais des sympathies qui avaient eu un ancrage déjà familial. Et Il soulignait beaucoup, justement, ce changement de regard qu'il avait porté. Il n'empêche que dans son regard, on sentait un regard, je dirais pas perdu, mais plein de souffrance.
Vous avez apporté une photo qui montre l'abbé Stock dans son petit bureau au oui. séminaire des Barbelés. Et effectivement, le regard qu'il a sur cette photo, c'est un regard de quelqu'un qui est déjà parti.
Ah, oui.
On a l'impression qu'il est ailleurs. Effectivement, il a le regard qui se perd dans le lointain. Et on a l'impression qu'il est dans l'au-delà. Donc, comme vous dites, il est avec tous ceux qu'il a accompagnés et qu'il a essayé d'amener à Dieu pour qu'il puisse reposer en paix.
Donc, il avait notamment un regard, si vous l'excusez-moi, je reviens sur ce regard, très doux. Un regard qui attirait, mais en même temps, souvent un peu triste. Je dirais qu'il était encore plein de la vision des centaines de condamnés qu'il avait accompagnés au poteau donc, d'exécution. Et j'ai découvert par la suite aussi que c'était un excellent directeur de conscience, car en effet, je lui avais demandé s'il accepterait d'être mon directeur de conscience. Compte tenu qu'il n'y avait pas d'aumônier français dans le camp, tout au moins au début, et puis compte tenu aussi de ce que tout de suite je m'étais tourné vers ce prêtre, encore une fois, qui respirait la bonté, qui respirait une certaine sainteté qui, on peut dire, émanait de toute sa personne. Il m'est arrivé, quand j'allais le voir dans son petit bureau, de le rencontrer. Il était en prière. J'avais frappé, il n'avait sans doute pas entendu, parce que justement, il était plongé vraiment dans le Seigneur. Et c'était impressionnant de le voir prier.
Et cela vous a marqué beaucoup et sans doute contribué à renforcer votre vocation.
Ah, ça, c'est certain. Ça, c'est certain parce que c'était un peu pour moi un modèle. Quelqu'un qui était vraiment représentatif des disciples du Christ, tel que certainement le Seigneur les voulait. C'est-à-dire quelqu'un qui avait du cœur, qui était profondément humain, qui, en tout prisonnier, ne voyait pas l'ennemi, mais voyait un frère. Et dans le même temps, un homme, encore une fois, de prière. Un homme qui, quand je l'ai vu aussi dire la messe, quand il disait la messe, c'était le contact avec son Seigneur qui était là. Plus rien d'autre ne comptait. C'était pas un homme bavard, mais il savait beaucoup écouter. Et les conseils qu'il donnait étaient toujours très équilibrés, pleins de bon sens, et il savait encourager. C'était un homme de cœur. Et quand je dis cela, j'entends quelqu'un qui avait un cœur très humain, mais aussi un cœur qui ne s'arrêtait pas aux différences de langue, de race, etc. Pour lui, tout homme, c'était vraiment un frère.
Nous allons faire une petite pause et écouter la chorale de la paroisse de Neheim, la chorale de l'église Saint-Jean de Neheim, où est né le 21 septembre 1904, le jour de la fête de Saint-Matthieu, Franz Stock. après ce magnifique Christus Factus Est, de, chanté par la chorale de Neheim, paroisse où est né l'abbé Franstock, qui est le personnage, la personnalité que nous évoquons aujourd'hui avec l'abbé Marcel Ferdinand, qui est un témoin de l'époque. Vous êtes une mémoire vivante et grâce à vous, nous avons appris que le regard de l'abbé Stock était très particulier.
Merci pour le mot mémoire, mais à mon âge, on perd justement la mémoire. Mais cependant, en ce qui le concerne, c'est vrai que je n'ai rien perdu, je crois, de ce qu'il a apporté à ces séminaristes, ce qu'il m'a apporté à moi, futur prêtre. Je voudrais ajouter tout de même que ce que chez lui j'admirais surtout, c'était sa foi profonde, donc nourrie de prières et d'Eucharistie, son accueil bienveillant, un accueil toujours plein de tact. C'était un homme très doux, c'est ce qui frappait en lui. Et un homme, dans le même temps, très humble. Quand je lui parlais, par exemple, de son rôle pendant la guerre, en étant pratiquement aumônier du Cherche-Midi, aumônier de la Santé, etc., de toutes les grandes prisons françaises où il y avait beaucoup donc, de résistants qui étaient arrêtés en attendant soit un jugement, soit le poteau d'exécution, eh bien, jamais il ne voulait que je souligne qu'il avait été quelqu'un d'un vrai prêtre. Et cependant, c'est vrai qu'au fil de nos rencontres, oh, je le voyais au moins une fois la semaine, j'ai découvert un prêtre, un vrai, qui avait su réaliser dans sa vie l'équilibre, souvent difficile, vous le savez bien comme moi, entre l'humain et le spirituel. C'était à mes yeux un modèle de prêtre qui toute sa vie s'est efforcé d'être auprès de ceux que le Seigneur avait mis sur sa route, notamment à ses paroissiens de la rue Laumont, et puis les condamnés par la suite, et enfin les séminaristes. Il s'est toujours efforcé d'être un messager de paix, de réconciliation et de pardon. Et son message, je crois que je pourrais le résumer en une phrase, où que nous soyons, et surtout dans les circonstances les plus douloureuses de l'existence, efforçons-nous d'être auprès de nos frères, quelles que soient nos différences, par une foi rayonnante et une charité débordante, avec l'aide de la prière et selon le mot de saint François, instrument de la paix de Dieu. Cette phrase que je viens de dire, vous l'avez remarqué, je l'ai lue. En effet, c'est tiré de son dernier message à ses séminaristes.
Magnifique discours qui anticipait effectivement les bouleversements qui attendaient effectivement les pays européens après cette Deuxième Guerre mondiale. Donc l'abbé Stock est resté en France alors qu'il aurait pu partir en Allemagne. Il est resté, il s'est occupé des prisonniers allemands, ensuite qui étaient dans les hôpitaux à Paris, et il s'est fait constituer prisonnier des Américains. Et ensuite, on lui a demandé d'accepter cette lourde charge de diriger le séminaire des Barbelés qui se visitait toujours.
Excusez-moi, je vous coupe. En réalité, il a été envoyé dans un camp de prisonniers à Cherbourg. Et c'est là que la belle meurt, qui était l'adjoint de celui qui deviendra monsieur Rodin par la suite, l'abbé Lemeur a été le chercher. Et cependant, l'abbé Lemeur souvent l'a souligné, au départ, il n'avait pas d'atome crochu avec ce prêtre. Je ne sais pas trop pourquoi. Moi, j'ai vu l'abbé Lemeur à plusieurs reprises au camp, mais je n'ai jamais eu l'occasion de parler vraiment avec lui. Mais j'aurais aimé, justement. Mais il a été capable, je dirais, de passer par-dessus ce qui avait pu l'empêcher peut-être de vraiment accrocher avec ce prêtre. Et il a donc été le chercher à Cherbourg. Ils sont venus à Orléans, où a commencé finalement cet essai de séminaire. Puis encore une fois, Orléans, il y avait des conditions matérielles très très mauvaises, et même une ambiance dans le camp. Et finalement, c'est le général Boisseau, puis le général Buisson après, qui a décidé de ce transfert, avec également le commandant Gouru, qui est lui-même, j'en ai pas parlé, mais c'était un homme remarquable, un homme très droit, un homme très respectueux. Hein, pour lui, un adversaire, c'était pas un ennemi. Et un chrétien qui s'efforçait de vivre vraiment sa foi chrétienne.
Donc on a regroupé ces séminaristes, tous les prisonniers qui s'apprêtaient à la prêtrise et qui vont effectivement renouveler le clergé en Allemagne après la guerre, puisqu'il y avait aussi eu beaucoup de persécutions, seront regroupés dans ce séminaire où vous étiez affectés, mobilisés après la guerre. Donc vous êtes la classe 22, ça veut dire que vous êtes né en 1922, donc votre grand âge vous honore et en plus vous pouvez nous parler de vos souvenirs liés à la mémoire de l'abbé Franstock. Je puis juste profiter d'un ce petit instant et annoncer avec un grand plaisir qu'aura lieu après l'inauguration de la fresque peinte par l'abbé Stock et qui vient d'être restaurée, le samedi 19 septembre, aura lieu le premier colloque Franstock sur le thème Histoire et mémoire, lieu et mode de commémoration, à l'occasion des Journées du patrimoine, à 14h à l'hôtel de ville de Chartres, avec la participation du professeur Étienne François et des historiens Jean-Pierre Rioux et Jean-Paul de Ramble. Renseignements au 06 15 17 52 14. L'association Les Amis de Franstock vous convie à participer à ce colloque. Donc, monsieur l'abbé Ferdinand, vous parliez de l'abbé Stock et peut-être vous voudriez conclure cette émission avec...
C'est pas conclure, j'aurais voulu compléter.
Vous compléterez et nous aurons l'occasion de refaire une émission avec vous. Donc, je vous laisse la parole.
Oui, mais j'aurais voulu parler, n'est-ce pas, de son attitude vis-à-vis de son pays, tel qu'il m'en parlait. Souligner aussi que c'était un visionnaire, et déjà avant l'heure, un Européen convaincu. Vous savez que pendant son séminaire, lui, avant d'être prêtre, il était venu en France à des rencontres chez Marc Sagnier, qu'il avait rencontré aussi Joseph Folier, qu'il avait partagé... tout l'attachement qu'ils avaient pour Saint-François, et lui, vraiment, il avait une âme franciscaine, l'abbé Stock. Il m'en parlait parfois, et il me parlait aussi de ses amis, qui étaient Marc Sagnier, mais surtout Joseph Folier. D'autres personnes l'ont marqué aussi, bien sûr, mais on n'a peut-être pas le temps d'en dire un mot.
On peut effectivement rappeler que très jeune déjà, il est venu en France, et c'est là qu'il a appris la langue française. Et nous allons évoquer ces souvenirs-là dans une autre émission à laquelle je vous convierai avec un très grand plaisir, une très grande joie. Je vous remercie beaucoup, monsieur l'abbé Ferdinand. Chers amis auditeurs, nous allons partir avec le credo de la messe solennelle de Cherubini.